Bonjour, bienvenue sur TV5 Monde, bienvenue dans International. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de cette émission en partenariat, comme chaque semaine, avec le journal Le Monde. Journal représenté aujourd'hui par Marc Engrand. Bonjour Marc.
Bonjour.
Les dernières prévisions l'affirment, l'économie mondiale va continuer à traverser une zone de turbulence pendant plus longtemps que prévu, en cause principalement l'inflation, dont le niveau baisse plus lentement que ce que laissaient entendre des études publiées en fin d'année dernière et au début de cette année. Conséquence de cette persistance, les prix vont rester élevés jusqu'à ce que les mesures prises pour tenter de les faire baisser, la hausse des taux par exemple, fassent effet. Compte tenu de cette situation, ces mesures doivent-elles être adaptées, renforcées ? La lutte contre cette inflation peut-elle être mieux coordonnée au niveau international ? Pour répondre à ces questions, nous recevons François Villeroy de Gallo. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le gouverneur de la Banque de France. De fait, vous siégez au Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne, la BCE. Vous êtes aussi le président d'une institution qu'on connaît peu, mais dont le rôle est important, la BRI, la Banque des règlements internationaux, qu'on présente souvent comme la Banque des banques centrales. Nous aurons l'occasion de l'évoquer au cours de cet entretien. Nous allons donc parler avec vous des réponses à apporter aux problèmes actuels se posés par l'inflation, mais aussi par deux autres grands sujets, le changement climatique et les crypto-monnaies, des sujets que vous avez évoqués cette semaine à Washington lors des rencontres de printemps du FMI et de la Banque mondiale. Vous rentrez tout juste des États-Unis. Vous nous direz.
Je débarque de l'avion et merci de m'accueillir.
Vous nous direz ce que vous en pensez. Nous parlerons aussi du multilatéralisme, de son rôle, de son évolution dans le monde actuel de l'économie. Mais avant de vous entendre, François Villeroy de Gallo, voici comme chaque semaine pour commencer cette émission, notre instantané. Des manifestants contre la réforme des retraites en France, c'était jeudi dernier. Certains se sont même rendus, on l'a vu, devant le Conseil constitutionnel. Conseil qui, ça y est, a rendu sa décision. C'était ce vendredi. Il valide en grande partie la réforme, notamment le changement d'âge légal de départ à la retraite, 64 ans. Réforme qui a été promulguée dans la nuit de vendredi à samedi. Quelle est votre réaction, François Villeroy de Gallo, à la promulgation de cette réforme? Vous qui avez dit de cette réforme qu'elle était indispensable.
Je crois que j'ai dit des choses plus subtiles que le résumé que vous venez de faire. Mais je ne vais pas vous surprendre, Antoine Genton. La Banque de France n'a pas de commentaires à faire sur la réforme des retraites. Il se trouve que nous avons énormément de responsabilités sur tous les sujets que vous avez évoqués précédemment, l'inflation, les taux d'intérêt. On essaie d'aider sur le climat. Je reviens effectivement de ces réunions internationales. Mais nous ne sommes pas en charge de la réforme des retraites.
Est-ce que ces manifestations... Jeudi, c'était la 12e journée de manifestation depuis le mois de janvier. 12 jours, ce n'est pas rien pour un mouvement social. Est-ce que ça pourrait avoir un impact sur l'économie française? Parce que ça, c'est quelque chose que vous regardez à la Banque de France.
Oui, ça, c'est quelque chose que nous avons regardé. Et sur le premier trimestre, il n'y a pas aujourd'hui d'effet significatif. Je crois que ça tient aussi au fait que ces manifestations ont eu lieu jusqu'à présent. Il est souhaitable que ça continue dans un calme qui a été assez remarquable, qui doit être salué.
Nous avons vu, là, on en a vu quelques-unes dans les images qu'on vient de vous montrer, mais des images inédites ces dernières heures. Des dizaines de gendarmes mobiles qui protègent le Conseil constitutionnel. C'était jeudi, vendredi, même lieu, mais un dispositif différent avec des barrières, des fourgons. Vous êtes le gouverneur de la Banque de France, on l'a dit, vous êtes aussi un citoyen français. Qu'est-ce que vous dites de ces images et de la situation
Rien.
Politique?
Rien. Non, encore une fois, il faut que chacun soit dans son rôle. Je ne suis en charge ni de l'ordre public, ni la Banque de France n'est pas en charge de la réforme des retraites. Je crois qu'après, il faut que notre vie démocratique, notre dialogue social fonctionne. Mais voilà, que chacun ait son rôle et je ne vais pas m'improviser sur mon opinion ou celle de la Banque de France sur un sujet sur lequel elle n'est pas compétente. Vous savez, aussi, le bon fonctionnement collectif, c'est que chacun joue le rôle qu'il est supposé jouer et pas celui des autres. Je m'applique et la Banque de France s'applique cette sagesse.
Vous scrutez à la Banque de France l'économie, l'évolution de l'économie française, de l'économie européenne. Je le disais, vous siégez au Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne. L'Europe, c'est une idée, une réalité qui guide votre action. Retour sur votre parcours et votre carrière. François Villeroy de Gallo, c'est le focus d'International, Oumi Diallo et Alice Langlois.
La Sarre, un petit pays. Une simple marche entre deux grandes nations, la France et l'Allemagne. Une rivière y serpente entre des cheminées d'usines.
Parmi ces usines, celle de Villeroy et Bock, entreprise de céramique fondée en 1748 par votre ancêtre Nicolas Villeroy. Dans cette région située aux frontières belges, luxembourgeoises et françaises, se forge votre espérance d'Européen, titre d'un de vos livres. Celle d'un Lorrain né à Strasbourg en 1959, qui pendant ses études travaille à la mine de charbon de la Houve, à Creutzwald. D'un polytechnicien promo 78 qui choisit le service public et l'inspection des finances.
J'ai servi mes 20 premières années entre la fin de mes études en 84 et 2003 au ministère des Finances, Bercy, enfin Rivoli à l'époque, puis Bercy, beaucoup sur l'aventure européenne et la création de l'euro. Donc vous voyez, ça c'est un peu le fil directeur de ma vie.
L'euro, vous y travaillez dans les années 90 comme conseiller de Pierre Bérégovoy, une rencontre déterminante, confiez-vous, puis directeur de cabinet de Dominique Strauss-Kahn. Changement de cap en 2003, vous tentez l'aventure du privé en prenant la tête de CTLM, société de crédit à la consommation, puis de la banque de détail du groupe BNP Paribas. Une expérience qui complique votre retour dans le secteur public. Candidat comme gouverneur de la Banque de France, votre indépendance est mise en cause lors d'une audition devant le Sénat. Vous répondez :
j'ai lu parfois là-dessus que je risquais d'être prisonnier de la finance si j'étais nommé. C'est extrêmement mal me connaître. J'ai mes limites, comme chacun. Mais je suis un homme libre et je suis un homme droit.
Finalement nommé en 2015 pour 6 ans, fin 2021, le président Emmanuel Macron propose votre reconduction à la tête de la Banque de France pour un second mandat marqué par les conséquences de la pandémie et de la guerre en Ukraine. Autant de crises profondes et un message.
Confiance.
La confiance, la meilleure des relances selon vous.
Voilà, la confiance. On entend souvent ce mot, François Villeroy de Gallo, lorsque vous vous accordez des entretiens. Ça veut dire que l'économie, c'est d'abord de la psychologie ?
C'est pas seulement de la psychologie, mais vous avez raison, la psychologie compte beaucoup. Au passage, d'ailleurs, je remercie l'équipe qui a préparé ce portrait, parce que j'avoue que je m'y suis assez bien retrouvé, y compris dans mes racines à l'Est.
Sarroise.
Voilà, sarroise et lorraine, et française très profondément, mais je suis un Français qui connaît bien l'Europe et l'Allemagne. La confiance, ça fait aussi partie de ça, d'ailleurs, que nous sachions nous parler. C'est vrai à l'intérieur de l'économie, à l'intérieur des entreprises, c'est vrai aussi en Europe et c'est vrai dans le monde avec ces réunions de Washington. Je pense que c'est peut-être un des ingrédients qui manque aujourd'hui, c'est que si nous nous ignorons, si chacun suit sa voie de son côté, c'est moins bon aussi sur la croissance économique.
Sur la confiance encore, quel est le rôle du gouverneur de la Banque de France que vous êtes à l'heure où, mais ça fait déjà plusieurs années, la politique monétaire européenne et française donc se décide non pas à Paris, mais à Francfort?
Ah oui, mais elle se décide à Francfort ensemble. Ce qu'on appelle la Banque Centrale Européenne fait partie en fait d'un eurosystème fédéral qui s'appuie aussi sur 20 banques centrales nationales, dont la Banque de France. Et je crois que si l'euro est une telle réussite, parce que l'euro a été créé depuis 2002, et c'est la première fois dans le monde qu'une région impose comme ça une nouvelle monnaie qui est un formidable succès pour ses propres citoyens, mais aussi à l'extérieur du monde. L'euro inspire confiance, pour reprendre votre mot. C'est aussi parce que l'euro n'apparaît pas comme une abstraction faite depuis une tour à Francfort, mais qu'il a ses 20 banques centrales nationales. Et donc concrètement, je suis toutes les 6 semaines à Francfort, sous la présidence de Christine Lagarde, une autre française, et nous décidons ensemble ce que nous faisons pour combattre cette fameuse inflation.
On va y venir, Marc Engrand.
La confiance, elle a aussi joué un rôle clé dans un des grands événements financiers des dernières semaines, c'est la chute de Crédit Suisse, qui a dû être sauvée en urgence par les autorités suisses, avec un rachat par son grand concurrent UBS, qui est en cours. Vous en avez sans doute beaucoup parlé à Washington, j'imagine.
Oui.
Est-ce qu'on peut déjà en tirer des enseignements de cette crise de confiance qui a fait chuter l'une des grandes banques européennes ?
Alors, vous avez raison, ça a été un des sujets que nous avons beaucoup discuté toute la semaine. Avec d'ailleurs les autorités suisses, mais aussi les autorités américaines, parce qu'il faut se rappeler, quelques jours avant, une banque en Californie, qui s'appelait Silicon Valley Bank, est tombée aussi. Alors je voudrais d'abord relever que pendant ces quatre jours aux États-Unis, personne ne nous a posé la question de la solidité des banques françaises ou des banques européennes. Donc je crois que celle-ci inspire confiance.
Ça veut dire c'est acquis ?
Vous savez, le superviseur que je suis ne doit jamais dire que c'est acquis. J'ai souvent dit avec un sourire, si vous me le permettez, Antoine Argenton, que si je dis un jour que nous baissons de vigilance, il est urgent de me remplacer. Nous sommes là pour être toujours vigilants. Mais souvenez-vous de crises précédentes, il y avait toujours eu des questions sur la contagion vers l'Europe. Cette fois-ci, il n'y en a pas. Et ça, c'est une des premières leçons par rapport à votre question, c'est que l'Europe a appliqué des règles beaucoup plus strictes qu'aux États-Unis, ce qu'on a appelé Bâle III, et que ces règles ont été efficaces. Alors, simplement, c'est des règles indispensables. J'espère d'ailleurs que les autorités américaines les appliqueront plus largement à ces fameuses banques régionales de taille moyenne.
Règles de contrôle.
C'est des règles de solidité sur ce qu'on appelle à la fois la solvabilité, la liquidité, pardon, c'est deux mots un peu barbares, mais à la fois la solvabilité, c'est les capitaux d'une banque, effectivement,
l'argent,
sa solidité, et la liquidité, c'est sa trésorerie. Et ça, c'est les deux exigences de base. Il y a peut-être une autre leçon qu'on peut retenir du cas Crédit Suisse, c'est que ces règles sont absolument indispensables, mais elles ne sont jamais suffisantes. C'est-à-dire qu'à côté des règles, de la régulation, il faut ce qu'on appelle la supervision, c'est-à-dire la surveillance banque par banque. Crédit Suisse respectait ces règles, mais Crédit Suisse avait des problèmes connus depuis des années de modèles d'affaires et de mauvais risques, de mauvaise gestion des risques par le management de Crédit Suisse. Et là, il faut que le superviseur puisse imposer un changement de la gestion.
L'inflation, c'est donc l'un des sujets dont vous avez parlé à Washington aussi au cours de la semaine, à cause de cette crise inflationniste que nous connaissons depuis plusieurs mois maintenant. Dans ses dernières prévisions publiées mardi, le Fonds monétaire international indique que l'inflation ralentit plus lentement que prévu. Elle sera de 7% cette année au niveau mondial, selon l'organisation, qui prévoyait initialement une inflation à 6,6%, en cause notamment L'inflation sous-jacente, c'est la hausse des prix de tout ce qui n'est pas énergie et alimentation, pour faire simple. Conséquence, eh bien, l'objectif d'une inflation à 2%, c'est-à-dire revenir à ce qu'elle était avant la guerre en Ukraine notamment, ne sera pas atteint avant un an et demi, voire deux ans. C'est ce que disait cette semaine le chef économiste du FMI.
L'inflation est toujours là. Et l'inflation sous-jacente en particulier n'a pas commencé à redescendre de façon significative vers le niveau visé. Dans notre rapport, nous disons que cela n'aura probablement pas lieu avant fin de 2024, peut-être 2025. Donc cela va prendre du temps. C'est pourquoi, tant que les risques financiers sont sous contrôle, les banques centrales devraient garder le cap.
Ça veut dire quoi, garder le cap pour les banques centrales ?
Alors, d'abord, je relève que le chef économiste du FMI est français.
Il se trouve que là, il parlait en anglais
parce que c'est un peu la langue de travail, mais ça montre une certaine influence de la France et de la francophonie. On y reviendra dans ces réunions de Washington. Alors, ce que dit Pierre-Olivier Gouin-Chasse vaut sur, et ce que vous disiez porte sur l'inflation mondiale. Si vous voulez bien, je vais faire un peu un zoom sur l'inflation européenne et française, parce que c'est ce qui nous intéresse, nous, le plus directement. Là, je dirais que les choses sont un peu plus favorables, c'est-à-dire qu'en 2023, l'inflation sera un petit peu moins forte que ce qui était prévu, même si elle reste trop élevée. Nous estimons qu'il y aura le pic d'inflation au cours de ce semestre, ce premier semestre 2023, qu'on devrait avoir une baisse d'ici la fin de l'année. Ça ne suffira pas encore, on devrait être en France autour de 4%, et que nous reviendrons vers 2% d'ici la fin 2024, fin 2025. Et ça, je tiens à le dire, Antoine Argenton, ce n'est pas seulement une prévision, c'est un engagement que nous, Banque Centrale Européenne, Banque de France, nous prenons vis-à-vis des Français et des Européens.
Et que vous pouvez tenir grâce à quelles mesures ?
Parce que nous pouvons tenir. Et là, il faut, si on a une minute pour rentrer un peu dans le détail, je crois qu'effectivement, il faut faire la différence que vous faisiez tout à l'heure entre l'énergie et l'alimentation d'un côté, et puis le reste, qu'on appelle l'inflation sous-jacente.
On a beaucoup parlé d'énergie et d'alimentation.
Alors, on parle beaucoup d'énergie et d'alimentation pour deux raisons totalement compréhensibles. La première, c'est ce qui a augmenté le plus. C'était l'énergie l'année dernière, souvenez-vous. Et cette année, malheureusement, c'est les produits alimentaires. Et il se trouve que c'est les deux achats les plus fréquents que nous faisons tous. Le plein à la pompe ou le caddie qu'on va remplir dans l'Intermarché. Mais il se trouve que la somme des deux fait 30% seulement de notre panier de consommation et qu'on a toute raison de penser que, comme pour l'énergie, l'inflation des prix alimentaires va être temporaire. C'est-à-dire que les prix agricoles mondiaux ont commencé à baisser et qu'au bout de quelques trimestres, les prix alimentaires, aussi en rayon, vont baisser probablement dans la deuxième moitié de l'année. Il reste les 70 autres dont on parle beaucoup moins, mais qui augmentent moins aujourd'hui. Mais là, il y a des risques de persistance. Donc ça, ce sont les services, les loyers, l'hôtellerie, restauration, les transports, et puis tous les biens manufacturés que nous achetons, l'électroménager, l'automobile, etc. Alors là, aujourd'hui, l'inflation est autour de 5%, donc un peu moins que... nettement moins que sur l'énergie et l'alimentation. Mais pour éviter cette persistance, alors c'est là que nous, Banque centrale, avons les moyens d'agir en relevant les taux d'intérêt. Nous sommes sortis de taux d'intérêt exceptionnellement bas qu'on avait connus pendant des années. Et ça, c'est une arme qui est toujours efficace pour vaincre l'inflation. Simplement, il y a ce qu'on appelle un délai de transmission, c'est-à-dire qu'il faut 1 à 2 ans pour que cette remontée de taux d'intérêt soit efficace pour lutter contre l'inflation. D'où le fait que je disais, nous ramènerons l'inflation vers 2% d'ici fin 2024, fin 2025.
Et donc la Banque Centrale Européenne, vous l'avez évoqué, elle a relevé ses taux directeurs très très vite, 3,5 points depuis juillet 2022, historique. Est-ce que ça veut dire, cette persistance, qu'il faut continuer à relever les taux encore plusieurs mois? Est-ce qu'on a assez de visibilité pour dire que la hausse des taux pourra s'interrompre avant la fin de l'année? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui?
Nous sommes partis en juillet dernier de taux qui étaient exceptionnellement bas, à moins 0,5%. On a un peu oublié ça, mais cette situation tout à fait exceptionnelle de taux d'intérêt négatif qu'il avait fallu mettre en place à l'époque où, au contraire, l'inflation était trop faible. Il y avait le risque d'une autre maladie. Il y a deux maladies possibles en économie. Il y a une inflation trop forte ou ce qu'on appelle la déflation. Bon. Et à l'époque, il fallait combattre la déflation. Donc moins 0,5, c'était une situation totalement anormale. Aujourd'hui, vous le disiez, les taux de la Banque Centrale Européenne sont à 3%. Nous allons voir réunion après réunion. C'est ce que nous avons dit avec Christine Lagarde de façon très pragmatique en regardant les données. Notre prochaine réunion sera début mai. Je redis simplement ici ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire. Je pense que nous avons fait l'essentiel du chemin et qu'il faut toujours regarder ce délai de transmission d'un à deux ans, l'effet contre l'inflation de nos décisions passées est encore plus important que l'effet de possibles relèvements futurs. Ils auront peut-être lieu dans les prochaines réunions.
Les marchés s'attendent à une hausse de 25 points de base, donc de 0,25% le mois prochain, en mai, lors de la réunion que vous évoquiez. C'est jamais très bon de décevoir les marchés.
Oui, ce n'est pas non plus une fin en soi de leur faire plaisir. Non, mais notre mandat, il est contre l'inflation et au service des Français et des Européens. Il n'est pas au service des marchés.
Donc, sur cette hausse.
Non, mais je ne commenterai pas les anticipations de marché. Rendez-vous le jeudi 4 mai, si vous voulez bien, conférence de presse de Christine Lagarde, je crois que c'est à 14h30.
Cela dit, si on... Et je reviens un peu sur ce que vous disiez, sur ce que disait Marc Engrand, est-ce que 3% c'est la limite haute ou est-ce que ça peut monter encore un peu d'ici la fin de l'année, les taux?
Nous verrons. Nous verrons, non, j'ai eu l'occasion de dire, je n'ai rien de nouveau à dire aujourd'hui. qu'il y avait la possibilité d'encore un peu de chemin à faire, mais que l'essentiel du chemin était fait. Vous savez, je revendique, en politique monétaire, quelquefois on classe les gouverneurs selon des catégories ornithologiques. On dit qu'il y a les faucons qui veulent toujours relever les taux, ouais, et les colombes qui ne voudraient pas les relever. Moi, je ne suis pas un oiseau, je suis un pragmatique. Et donc le pragmatique, ça consiste, réunion après réunion, et notamment cette prochaine réunion du 3 mai, de regarder où on en est des chiffres économiques, de l'inflation totale, de l'inflation sous-jacente dont vous parliez, et de décider à partir de ça. Donc nous verrons début mai où on en est.
Cette inflation, elle a des effets, cette hausse des taux aussi d'ailleurs, ont des effets sur des États qui sont endettés, certains très endettés. C'est le cas d'États émergents, en Afrique notamment, Ghana est très endetté, la Tunisie, le Maroc sont très endettés aussi. Qu'est-ce que vous dites de cette situation? Est-ce que vous êtes inquiet pour l'évolution et l'avenir économique de ces pays?
Alors, ça c'est un sujet dont nous avons beaucoup parlé dans les réunions de Washington cette semaine. Et je dirais qu'il y avait à la fois de la gravité autour de la table, parce que nous avons à gérer beaucoup de crises à la fois. On a parfois parlé d'une situation de polycrise sans précédent. Et en même temps, il y avait une mobilisation et je crois une responsabilité collective, notamment vis-à-vis du sujet que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire que tout le monde souffre de l'inflation. C'est vraiment l'intérêt collectif de vaincre cette maladie tant qu'il est temps. Parce qu'en plus, c'est une maladie qui peut être contagieuse entre les pays et qu'on ne doit pas laisser s'installer dans la durée. Comme toute maladie, plus on la traite tôt, moins le traitement est lourd. Donc nous ne voulons pas laisser s'installer l'inflation, d'où la nécessité de relever les taux d'intérêt. Et c'est vrai, quand on relève les taux d'intérêt, la charge de la dette augmente. Et ce qui est supportable dans des économies riches, même si c'est un peu plus difficile, quand les taux d'intérêt sont plus élevés, peut être... alors, très difficile à supporter pour notamment des pays pauvres d'Afrique. Et c'est d'abord à eux que nous avons consacré nos efforts. Donc je crois que par rapport à ça, il y a d'abord une mobilisation de ressources supplémentaires du Fonds monétaire international.
Donc la FMI va aider davantage ces pays.
100 milliards de dollars qui avaient été, l'engagement avait été pris au moment de la crise Covid. Ça ne sert pas qu'à la dette de ces pays, mais une partie va servir à la dette des pays très endettés. Sur les 100 milliards, et j'ai un peu insisté avec quelques autres là-dessus, nous sommes à 87 milliards mobilisés, donc il faut encore faire un effort pour atteindre les 100 milliards. Et puis à côté de ça, il y a eu beaucoup de discussions à Washington cette semaine sur ce qu'on appelle le cadre commun de traitement de la dette, justement pour ces pays que vous avez cités. Le Ghana, la Zambie, le Tchad, pour lequel on a déjà fait des progrès, ou en dehors d'Afrique, le Sri Lanka. Et là, il faut que tout le monde puisse se mettre autour d'une table. Il se trouve que la France, je crois qu'on peut en être fier, préside ce qu'on appelle le Club de Paris, qui s'occupe de restructurer, d'aménager la dette des pays trop endettés.
Donc c'est la question, la restructuration de la dette de ces pays pour les aider à passer cette...
Voilà, alors ça, il y a des mécanismes de Club de Paris avec un programme de réforme économique. Une des questions, pourquoi est-ce qu'on parle d'un cadre commun qui est plus large que le Club de Paris, c'est que la Chine n'est pas membre du Club de Paris. Ça n'avait pas énormément d'importance il y a quelques décennies, parce que la Chine n'était pas un gros créancier. Mais la Chine a depuis beaucoup prêté, et ce cadre commun essaye d'inclure la Chine dans les pays qui acceptent une restructuration de leurs créances.
C'est-à-dire que le Club de Paris accepte de restructurer les dettes, en tout cas d'en discuter. La Chine, elle, refuse pour le moment. Elle ne veut pas renoncer à ces...
Les choses sont un tout petit peu plus subtiles que vous venez de le dire. Et c'est l'objet de la négociation. Mais c'est une négociation assez serrée. Il y a eu quelques intentions plus positives affichées de la part du grand créancier que vous venez de citer. J'espère beaucoup que ça se matérialisera sur les quelques pays, Ghana, Zambie, dont on a parlé. C'est dans l'intérêt de l'Afrique, bien sûr.
Le retour, on a encore beaucoup de sujets à évoquer avec vous, François Villeroy de Gallo. Revenons en France. Parmi les conséquences de l'inflation, il y a eu la hausse du livret A, le placement financier le plus populaire dans le pays. 56 millions de Français en possèdent un. Le taux a été revalorisé à 3% le 1er février. Il n'y aura pas de nouvelle hausse le mois prochain, annoncé cette semaine un quotidien français, Le Parisien. Est-ce que vous confirmez ?
La situation normale, c'est que le taux du livret A est examiné tous les 6 mois. Il n'y a jamais eu d'exception à cette règle depuis 10 ans. Et il y a eu un relèvement très important du taux du livret A le 1er février dernier, puisqu'on est passé à 3%. Je rappelle que début 2022, en janvier 2022, c'est il n'y a pas si longtemps, le taux du livret A était à 0,5. Bon. Et ce 3% attire d'ailleurs beaucoup l'épargne des Français, parce que le livret A n'a jamais collecté autant,
10 milliards d'euros qu'aujourd'hui. Juste pour le mois de janvier. Hein.
J'en profite pour dire, parce qu'on a beaucoup parlé du livret A, qu'il y a un autre produit qui est le livret d'épargne populaire, qui est possible pour 18 millions de Français et qui, lui, est encore mieux rémunéré puisqu'il est rémunéré à 6,1%.
C'est sous condition de ressources.
Si vous me permettez. Ouais. C'est sous condition de ressources, mais ça peut bénéficier à 18 millions de Français. Et il se trouve que 8 millions seulement aujourd'hui utilisent cette possibilité. Donc, puisque vous m'en donnez l'occasion, pour tous ceux qui peuvent en bénéficier, il suffit d'interroger son conseiller bancaire. Le livret d'épargne populaire est un excellent placement aujourd'hui.
L'une des autres conséquences de la remontée des taux d'intérêt directeurs, c'est la remontée des taux des crédits immobiliers. Il y a eu un long débat ces derniers mois sur le taux d'usure. C'est un taux qui plafonne en quelque sorte les taux des crédits immobiliers. La Banque de France a modifié les règles de ce taux d'usure. Est-ce que le débat est clos et est-ce que surtout il fallait freiner le marché du crédit immobilier ?
Je ne crois pas du tout qu'on ait freiné le marché du crédit immobilier. On est sorti d'une situation, ce que nous disions tout à l'heure, quand il y avait une inflation.
Le nombre de prêts a baissé de 20% à peu près l'an dernier.
Oui, mais il faut regarder par rapport à quoi on compare. On compare par rapport à une période qui était exceptionnellement accommodante pour le crédit immobilier. Pourquoi ? Parce que ce que vous disiez tout à l'heure, les taux d'intérêt étaient exceptionnellement bas. Que je sache, quand il y avait ces périodes de production de crédit immobilier exceptionnel et de taux d'intérêt extrêmement bas, j'ai pas entendu à ce moment-là les uns et les autres dire « c'est formidable ».
C'était une situation dangereuse ?
Non, ce n'est pas une situation dangereuse. Vous savez, dans l'économie, il y a des variables, comme leur nom l'indique, qui bougent. Bon. Mais nous l'avions dit à l'époque, et c'était évident, c'était des situations exceptionnellement favorables. Rappelez-vous, le taux du crédit immobilier était entre 1 et 1,5%, ce qu'aucun d'entre nous n'avait jamais vu. Bon, on est revenu aujourd'hui vers des taux proches de la normale, on est revenu vers des volumes de production proches de la normale. C'est d'ailleurs assez simple, quand vous regardez le niveau des taux ou les volumes de production, on est à peu près dans la situation où on était avant 2015. Ce qui est très logique, puisque 2015, c'est le début de cette période de taux exceptionnellement bas. Ce que je veux relever dans un sens satisfaisant, c'est qu'évidemment, les taux d'intérêt remontent dans toute l'Europe, puisqu'on parlait de la Banque Centrale Européenne. Il se trouve que c'est en France, de très loin, que le crédit immobilier est le moins cher et le plus abondant d'Europe. Et le mécanisme de taux de l'usure que vous citiez, que nous avons aménagé dans le calcul de la formule, mais que le mécanisme de taux de l'usure contribue à ce que le crédit immobilier soit moins cher en France qu'ailleurs et donc plus accessible, notamment à tous les accédants à la propriété.
Intéressons-nous maintenant à l'un des autres sujets dont vous avez parlé à Washington, aux États-Unis, au cours de la semaine, le multilatéralisme. Vous avez plaidé lors de vos interventions sur place pour une impulsion multilatérale forte et efficace. Pourquoi ? Ça veut dire que ça ne marche pas suffisamment bien aujourd'hui, le multilatéralisme ?
Là, je crois qu'il faut revenir à l'éléphant dans la pièce, si vous voulez bien, qui est l'invasion russe de l'Ukraine. Parce que jusqu'à présent, on parlait de l'inflation, de la remontée des taux d'intérêt, etc. Mais un des messages très forts de cette semaine à Washington, c'est qu'à l'origine de beaucoup de ces difficultés économiques, il y a l'agression russe. Et certains l'ont dit, la première mesure de politique économique dont on pourrait rêver pour faire baisser l'inflation, pour accélérer la croissance, c'est que la Russie accepte de se retirer d'Ukraine. Alors, évidemment, on peut considérer que c'est un vœu pieux, mais je crois qu'il faut se rappeler qu'il y a cette difficulté-là à l'origine. Et sur les difficultés de ce qu'on appelle le multilatéralisme, la coopération internationale organisée, il est évident que depuis l'invasion russe, les tensions géopolitiques sont plus fortes. Alors, le plaidoyer que je fais avec d'autres, et je crois que l'esprit qu'on a vu dans les réunions de cette semaine, le manifeste, c'est que ces tensions géopolitiques et cette énorme difficulté, cette énorme agression par rapport à l'ordre international qu'est l'invasion russe, ne doit pas empêcher de faire des progrès pragmatiques sur un certain nombre de sujets. Je vais en citer deux ou trois. Le climat, bien sûr, dont on parlera, qui reste un intérêt commun. Les paiements transfrontières, comment est-ce qu'on simplifie la vie de tous ceux Et ils sont très nombreux au Sud qui ont à faire circuler des flux vers leurs familles, pour ceux qui sont immigrés dans des pays du Nord, vers leurs familles, rester en Afrique ou en Asie ou en Amérique latine. Voilà, ça, c'est des choses très concrètes qu'on peut faire.
Ce que vous dites, c'est qu'il est, il est plus difficile aujourd'hui, compte tenu de la situation géopolitique et de cette invasion russe, de s'entendre avec des pays, que le multilatéralisme financier, économique a été attaqué d'une certaine manière et affaibli par l'invasion russe.
Ouais, écoutez, je vais prendre un exemple assez évident, ce qu'on appelle le G20. Le G20, c'est les 20 principaux pays et premières économies de la planète, qui est devenu depuis une vingtaine d'années le forum probablement le plus important de ce multilatéralisme. Et d'ailleurs, la création du G20 a marqué un vrai progrès. Avant, et on parlait, vous vous souvenez, du G7, qui étaient les économies avancées. Le G7 existe toujours et joue son rôle. Mais le G20, ça veut dire qu'autour de la table, à égalité de droits, de poids, etc., il y a les grands pays émergents. Cette année, le G20 est présidé par l'Inde. L'année dernière, il l'était par l'Indonésie. L'année prochaine, il le sera par le Brésil. Vous voyez, on a vraiment un peu changé d'horizon géographique. À la table du G20, il y a la Russie. Vous imaginez la difficulté. Et donc, c'est évidemment... Le G20 fonctionne par consensus. C'est la règle depuis le début. Ben, il est évidemment beaucoup plus difficile d'avoir un consensus avec la Russie autour de la table, éventuellement tel ou tel pays qui peut en être proche.
Vous parliez de l'Inde, du Brésil, on a parlé de la Chine aussi. Ces pays avec la Russie et l'Afrique du Sud sont réunis dans un autre groupe qu'on appelle les BRICS. Ces BRICS envisagent de lancer une nouvelle monnaie, une monnaie commune pour contrer l'influence occidentale, pour concurrencer le dollar, qui est encore aujourd'hui la monnaie de référence dans beaucoup d'institutions financières internationales. Comment vous réagissez à ce projet ?
Je pense que c'est un projet.
Donc, oui, c'est ce que j'ai, un projet.
Une certaine prudence. Non, je crois que derrière ça, il y a l'idée d'avoir un système monétaire international qui soit plus équilibré en termes de diversité des monnaies. C'est là qu'il faut qu'on reparle de l'euro. Vous savez, la deuxième monnaie mondiale aujourd'hui, ce n'est pas une monnaie des BRICS ou la monnaie chinoise, c'est l'euro. C'est l'euro. Qui, encore une fois, est un formidable succès parce que ça n'existait pas sur le paysage, il y a un peu plus de 20 ans. Et donc, je crois qu'il ne faut pas se lancer dans une guerre des monnaies, ou pire encore, dans ce qu'on pourrait appeler une fragmentation, c'est-à-dire qu'il y aurait une espèce de zone économique qui commercerait en dollars, une autre en euros, une troisième en yuan chinois ou avec une future monnaie des BRICS. Il faut que le commerce mondial reste ouvert avec des règles. Tout le monde perdrait à une fragmentation monétaire ou économique. Mais que par contre, un certain nombre d'échanges puissent se faire dans une plus grande diversité de monnaie, ça, je pense, c'est assez naturel.
Et est-ce que, dans cette démarche-là, il y a un rôle à jouer pour des monnaies numériques ? On sait que la Banque centrale européenne réfléchit en ce moment à la création d'un euro numérique. Quel pourrait être le rôle de cet euro numérique et son utilité pour les citoyens de la zone euro et ailleurs ?
Alors... Il y a un vrai débat, une vraie place, je pense, pour la monnaie numérique. Il me semble qu'elle n'est pas directement liée à la question que vous posiez sur le commerce international. La question de la monnaie numérique, c'est quoi ? C'est qu'il y a toute une série de progrès de la technologie. Vous citiez tout à l'heure les crypto-actifs. Je ne crois pas que ce soit des crypto-monnaies, parce qu'ils n'ont pas les caractéristiques de monnaie, ils n'ont pas de valeur stable du tout, ils ne sont pas acceptés comme moyen de paiement. Mais il y a des technologies de digitalisation, de contrats embarqués, de blockchain qui peuvent être tout à fait prometteuses. Et donc l'idée de la monnaie numérique, c'est de dire on prend le meilleur de la technologie, de l'innovation, mais au lieu de l'associer à des actifs privés extrêmement risqués, regardez, le Bitcoin est extrêmement volatile dans sa valeur.
Il a chuté notamment l'automne dernier.
Il a remonté,
il est très volatile.
Il peut y avoir des investisseurs en Bitcoin. Je redis simplement qu'il faut que ce soit des investisseurs très avisés et qui prennent un risque de volatilité très important. Mais si vous utilisez ces technologies pour des monnaies reconnues dont la valeur est garantie par les banques centrales. Le rôle de la banque centrale, c'est de préserver la valeur de la monnaie. L'euro, le dollar, ça peut être la monnaie chinoise, ça peut être d'autres. Là, je crois que vous avez le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire vous avez l'innovation et vous avez la stabilité apportée par l'engagement public. Donc nous travaillons là-dessus en Europe. L'Europe, là-dessus, est d'ailleurs plutôt en avance par rapport aux États-Unis. Je l'ai encore vérifié cette semaine, ou par rapport à d'autres continents. Et nous déciderons au sein du Conseil des gouverneurs de la BCE d'ici la fin de l'année si nous passons à une phase de préparation beaucoup plus active.
Vous avez dit que, en fin d'année dernière que l'euro numérique pourrait être lancé en 2027. Est-ce que c'est un horizon que vous maintenez encore aujourd'hui ?
Oui, alors pour préciser les choses, pour en tout cas ce qui est un euro numérique grand public, parce qu'il y a des variantes qui sont plus faites pour les institutions financières, ce que nous appelons l'euro numérique interbancaire ou de gros, sur lequel la Banque de France est au passage très active. Mais si je reviens sur l'euro numérique grand public, le calendrier serait suivant, c'est décision sur une phase de préparation active que nous prendrions à la fin de cette année, et au terme de cette phase de préparation qui prendrait trois grosses années, généralisation possible, ce sera une autre décision en 2027. Fin 2026, début 2027.
La coopération multilatérale sur un tel projet est importante, hein, on le voit bien, notamment au sein de la zone euro. Mais à quel niveau se passe-t-elle ? Est-ce qu'elle se passe entre pays d'une même zone ou est-ce qu'elle peut se passer aussi entre différents pays, entre les pays européens, les États-Unis, les pays européens et la Chine ?
Et l'Asie, etc. Ouais. Oui, alors, vous avez tout à fait raison, c'est des projets qui sont conduits par chaque banque centrale. Mais il faut qu'on essaye d'avoir une interopérabilité de ces différentes monnaies, y compris dans l'intérêt de nos citoyens. Je parlais tout à l'heure des paiements transfrontières. Si un citoyen ivoirien travaille en Europe et veut faire passer de l'argent dans son pays d'origine, il le fera peut-être avec de la monnaie numérique. Il faut qu'on puisse passer les frontières assez simplement. Même chose vers l'Amérique du Sud ou vers l'Asie. Alors là, on va retrouver le rôle d'une institution que vous citiez tout à l'heure et que j'ai effectivement l'honneur de préciser, qui est la Banque des règlements internationaux. Son siège est à Bâle et au fond, c'est une coopérative de services pour les banques centrales, pour tous les problèmes communs qu'elles ont. Une des choses que nous faisons à la BRI, c'est d'avoir un hub d'innovation avec plusieurs installations dans le monde. Et un des thèmes prioritaires de ce hub, c'est justement l'interopérabilité des futures monnaies numériques si elles voient le jour.
On verra, donc on suivra l'évolution de ces projets. Il y a des initiatives qui ont déjà été prises par des États, non pas avec des monnaies numériques telles qu'on vient d'en parler, mais avec des crypto-monnaies, le Bitcoin et autres, le Bitcoin en l'occurrence. C'était le Salvador et la Centrafrique qui ont fait de ce Bitcoin des monnaies officielles. Comment vous pourriez qualifier ces initiatives ? Le Salvador, je crois que ça fait un peu plus d'un an et demi, et la Centrafrique un an.
Comment dire les choses ? Ça ne paraît pas être un succès très convaincant. Et si je prends le cas de la Centrafrique a une monnaie reconnue, stable, qui est le franc CFA. Voilà. Mais restons sur le cas du Salvador, qui a été effectivement le pionnier. Je ne crois pas que les citoyens du Salvador aient l'impression d'avoir leurs économies mieux protégées parce qu'on leur imposerait l'usage du Bitcoin. J'ai même plutôt l'impression contraire. Ce qui risque de se passer quand un pays impose comme ça une fausse monnaie, soyons clairs, ça peut être un actif d'investissement, mais ça n'est pas une monnaie. Ce qui risque de se passer, c'est qu'il se reporte alors sur le dollar dont vous parliez tout à l'heure.
Encore une question avant de parler d'innovation et d'environnement. Quand on parle de numérisation de la monnaie, on se dit, certains peuvent se dire aussi, mais qu'est-ce qui va arriver avec mes pièces et mes billets ? Qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Est-ce que ça veut dire que les pièces et les billets, à terme, vont disparaître ?
Je le redis très clairement, nous n'abandonnerons pas les pièces et les billets. Il se trouve que les billets, c'est la Banque de France qui les imprime dans le Puy-de-Dôme et que nous les distribuons sur l'ensemble du territoire. S'il doit y avoir un euro numérique grand public, ça sera un choix supplémentaire pour les citoyens. Je tiens énormément à cette libre choix des formes de monnaie. Vous pourrez choisir de payer par billet, par euro numérique, par votre carte bancaire, par votre téléphone mobile. Je crois que cette liberté choix fait partie de la confiance dans la monnaie dont on parlait tout à l'heure. À chacun de choisir.
On parle beaucoup de développement de l'intelligence artificielle. Parlons un petit peu de ça, parce que ça fait partie aussi de l'innovation que vous évoquiez tout à l'heure. Est-ce qu'elle peut jouer un rôle dans la mise en place de ces monnaies numériques ou plus largement dans le secteur bancaire ?
Alors, je crois que l'intelligence artificielle, comme toutes les innovations technologiques, va jouer un rôle dans le secteur financier comme elle le joue dans l'ensemble de l'économie. Alors, il est un peu trop tôt pour dire jusqu'où ça ira. Alors, c'est vrai qu'on parle énormément d'intelligence artificielle. Je suis frappé comme vous depuis décembre dernier, depuis ChatGPT. Bon. Je dirais que là, comme en toute chose, il faut savoir suivre le chemin de crête, il faut évidemment incorporer le meilleur des innovations. Refuser les innovations, c'est ridicule et ça serait se priver de beaucoup de progrès possibles. Mais il ne faut pas non plus leur faire une confiance aveugle. Je vais citer un exemple sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle peut servir dans les banques à élaborer ce qu'on appelle des algorithmes de crédit qui éclaireraient la décision de crédit. Nous avons déjà dit aux banques que si elles utilisaient de l'intelligence artificielle dans leurs algorithmes, il était hors de question d'avoir ce qu'on pourrait appeler le syndrome de la boîte noire. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir expliquer comment fonctionne l'algorithme, en contrôler les résultats, et il faut pouvoir l'auditer. Donc ça, c'est, je crois, le type d'avancée technologique intelligente et les yeux ouverts. Nous ne confions, nous humains, jamais les clés totalement à la technologie. Heureusement, le contrôle des hommes et des femmes reste central.
Est-ce qu'il faut s'inquiéter aussi de l'impact que peut avoir le développement de l'intelligence artificielle sur l'emploi ? Il y avait une note de Goldman Sachs récemment qui disait que ça pouvait menacer 300 millions d'emplois dans le monde, notamment dans les services. Est-ce que c'est un risque à prendre en compte dans le développement de ces technologies ?
Oui, ça c'est un débat qui est vieux comme l'innovation. Et au 19e siècle, quand on s'est apparu toute une série de machines dans le secteur industriel, il y a eu des inquiétudes de ce type.
Ça a été une réalité aussi.
Oui, honnêtement, je ne sais pas très bien ce que vaut le chiffre de Goldman Sachs. Ce qu'on a vu au 19e siècle, et puis après, là aussi, il faut avancer les yeux ouverts et avec lucidité, c'est que certains emplois ont pu disparaître, mais davantage ont été créés ailleurs. Et que c'est cette innovation qui a permis l'enrichissement collectif. Je vais prendre un exemple évident. On n'a jamais eu, évidemment, autant d'innovations incorporées dans notre production économique et il n'y a jamais eu autant d'emplois en France qu'aujourd'hui. Jamais. Ni jamais autant d'heures travaillées. Donc, la machine ou l'innovation, en soi, n'est pas l'ennemi de l'emploi. Mais c'est la nature des emplois qui peuvent changer. Peut-être, de temps en temps, la machine peut supprimer certaines tâches pénibles ou répétitives et les nouveaux emplois peuvent être plus qualifiés, plus attractifs. Alors ça renvoie une nécessité absolue, un impératif numéro un pour notre pays, comme je crois pour l'ensemble des pays, c'est la formation. C'est donner le maximum de chances aux jeunes, et d'ailleurs aux moins jeunes.
Vous parliez du climat il y a quelques instants, François Villeroy de Gallo, vous en avez donc parlé à Washington cette semaine. Un rapport publié également cette semaine par plusieurs ONG affirme que les banques américaines principalement, ont financé des énergies fossiles à hauteur de 673 milliards de dollars l'an dernier dans le monde. C'est un peu moins qu'en 2021, d'ailleurs c'est le chiffre je crois le plus bas depuis 6-7 ans, mais ça reste quand même à un niveau très élevé. Est-ce que c'est acceptable compte tenu de ce qu'on sait des effets dévastateurs des énergies fossiles sur l'évolution du climat ?
Alors il va falloir sortir des énergies fossiles, évidemment, et comme vous le savez, c'est une priorité en particulier pour l'Europe. Parce que l'Europe est en pointe sur le climat. On peut d'ailleurs s'en féliciter. L'engagement de l'Europe d'être neutre en émissions carbone en 2050, d'avoir réduit de 55% en 2030, c'est une étape très forte, c'est exemplaire. Ça, je peux vous dire, quand on est dans des réunions internationales, les Européens sont en position assez forte. Il faut d'autant plus s'en sortir pour nous, Européens, que les énergies fossiles, nous n'en produisons pas. Et donc, si nous voulons notre autonomie stratégique, on l'a vu malheureusement par rapport à l'histoire du gaz russe, eh bien, il faut, pour produire notre énergie, que ce soit une économie décarbonée. Après, on ne peut pas sortir des énergies fossiles comme ça en 3 mois. C'est un processus sur plusieurs années. Donc, il faut encore un certain financement, et je ne vais pas donner le montant des énergies fossiles, mais en étant tout à fait clair que ça doit être en réduction et que ça doit être en transition. Regardez ce qui s'est passé en Europe et à court terme, malheureusement, il n'y avait pas d'autre solution. Quand l'Allemagne réutilise le charbon...
L'Allemagne ferme aujourd'hui ses 3 dernières centrales nucléaires ce samedi.
Ses 3 centrales nucléaires, ça, on peut le regretter, parce que je pense que le nucléaire est un atout français. Mais c'est une décision politique allemande et souveraine. Quand la France, dans mon Est, dont on parlait tout à l'heure, ma chère Moselle, garde l'usine de la centrale à charbon de Saint-Avold. Je peux vous dire, c'est tout près de chez moi. Bon. On ne peut pas dire que ça nous fasse forcément très plaisir, mais c'est nécessaire face à la coupure du gaz russe. Je crois simplement qu'il faut situer très clairement dans une perspective de transition, de réduction des énergies fossiles et d'accélération très forte sur les renouvelables. Ça, c'est tout l'enjeu de la finance verte. Et la Banque de France y est extrêmement active, on va sans doute en parler.
Justement, quel est le rôle des banques centrales? On sait que la Banque centrale européenne a annoncé avoir commencé à verdir son portefeuille. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement et quel rôle moteur ça peut avoir pour ce changement
Alors, il se trouve qu'en la matière, la Banque de France est leader, et c'est un leadership reconnu, ce n'est pas nous-mêmes qui nous donnons cette couronne. C'est que les ONG, et vous parliez de leur rôle, 21 ONG internationales ont classé les banques centrales du G20 et que la Banque de France est pour la deuxième année première de ce classement sur l'engagement vert.
Par quoi ça passe?
Alors, ça passe par trois choses, mais je vais être rapide. La première, c'est la casquette de superviseur, c'est-à-dire le surveillant des banques dont on parlait tout à l'heure. Notre rôle est de dire... Pour les banques, vous devez suivre ces risques climatiques, vous devez en réduire les expositions, ce qu'on disait à l'instant, et vous devez être conscient que si vous financez des énergies fossiles, avec le temps, ça va représenter un risque de plus important parce que la valeur des actifs correspondants va diminuer. Première casquette. Et là, je dirais qu'on a fait des progrès extrêmement sérieux. On oblige les banques et les assurances à faire des stress tests climatiques. Et la prochaine étape, ça sera d'avoir des plans de transition pour sortir justement des énergies carbonées. La deuxième chose que nous faisons, nous, Banque de France, c'est sur nos propres investissements socialement responsables. Nous avons pris des engagements très forts depuis 2018. Tous nos investissements sur fonds propres, sur la caisse de retraite, etc., sont indexés à la fin de cette année sur 1,5 de température. Nous étions à 2 degrés. Nous sommes maintenant au plus bas de l'accord de Paris. Je crois que nous sommes la seule banque centrale en Europe à avoir ça. Et puis le troisième élément, c'est ce que vous disiez à propos de la politique monétaire verdie, c'est-à-dire que nos opérations doivent porter de plus en plus sur des titres d'entreprises vertes ou ayant suffisamment avancé dans leur transition. Mais ça couvre aussi le verdissement de la politique monétaire, quelque chose dont on parle moins et que je crois être au moins aussi important. Nous faisons beaucoup de prévisions économiques sur la croissance, sur l'inflation, les décisions de taux d'intérêt dont on parlait tout à l'heure, nous les prenons au vu de ces prévisions. Dans ces prévisions, qui reposent sur des modèles, c'est un gros travail, il faut incorporer l'effet économique du climat. Je suis de plus en plus frappé par ça, et ça aussi nous en avons parlé à Washington.
Il faut le faire, c'est-à-dire que tout le monde ne le fait pas ?
C'est un travail assez difficile, c'est-à-dire que... Je peux vous dire, parce que là aussi, la Banque de France est assez en pointe. Nous venons d'ailleurs de publier un bulletin que les uns et les autres peuvent aller regarder sur les différents scénarios possibles d'effet du climat sur l'inflation et sur la croissance. Et on l'a fait par scénario parce qu'il n'y a pas de certitude en la matière. Mais nous éclairons les choses là-dessus. Et je vais vous dire un exemple qui m'a beaucoup frappé cette semaine. Il se trouve qu'il ne concerne pas l'Europe. Mais le changement climatique a des effets économiques déjà très significatifs sur un pays comme l'Argentine, qui est un pays en difficulté. C'est une grande puissance agricole qui souffre malheureusement d'une sécheresse grave cette année qui affecte sa croissance économique. Comment est-ce que de plus en plus nous modélisons ces événements physiques, climatiques, dans les résultats économiques? Ça, je pense, c'est une grande ère de progrès.
On parlait des ONG. Les ONG ont saisi la justice, notamment contre une banque française, la BNP, qui est la banque française qui, encore une fois, d'après le rapport qui a été publié cette semaine, est la banque française qui finance le plus les énergies fossiles. Elle a donc été assignée en justice par trois ONG, Notre Affaire à Tous, Oxfam, Les Amis de la Terre. Et elles invoquent ces ONG, comme l'explique leur avocat, le devoir de vigilance.
On se fonde sur la loi de devoir de vigilance qui a été adoptée par le législateur français en 2017 et qui est une innovation mondiale puisque pour la première fois, une loi oblige les multinationales à prendre des mesures pour limiter, pour prévenir les risques et les atteintes graves qui résultent de leurs activités. Donc cette loi, elle les oblige notamment à prendre des mesures de vigilance pour limiter tous ces risques et ces atteintes en matière de droit de l'environnement, et en matière d'atteinte aux droits humains. Et le climat est évidemment aujourd'hui l'atteinte la plus grave à laquelle est exposée l'humanité.
Alors il y a plusieurs facteurs qui peuvent agir sur les entreprises. Vous parliez de ce que fait la Banque de France, mais il y a aussi la justice. Est-ce que la justice et ce genre d'initiative peut faire changer plus rapidement les actions des banques ?
Je crois que d'abord, la banque dont vous citez a donné un certain nombre d'éléments en réponse. Donc la discussion va se poursuivre. Mais s'il faut que la justice tranche, elle le fera. Mais
sur le rôle de la justice.
Non, mais la justice peut y contribuer, mais elle n'est évidemment pas la seule. Ce que je voudrais dire au-delà de ce que nous venons de dire sur les entreprises, c'est que je crois que c'est très important d'avoir une mobilisation internationale sur le sujet. Et ça, je trouve que c'est un des éléments cette semaine à Washington qui m'a paru aller dans le bon sens, je le dis avec prudence, parce que c'est une tâche titanesque de réussir la transition climatique.
On sait que les positions
quand on parlait des difficultés du multilatéralisme, là, je crois qu'il y a une volonté partagée autour de la table. Ça ne veut pas dire que chacun n'attende pas que l'autre fasse des efforts plus importants.
C'est nouveau pour vous, c'est la première fois que vous sentez ça.
Je pense que c'est une prise de conscience. Je ne peux pas vous dire que c'est nouveau de cette semaine, mais c'est nouveau d'il y a 2-3 ans. Et dans les leviers que nous avons décidé d'activer cette semaine, il y a la mobilisation de la Banque mondiale et de ce qu'on appelle les banques régionales de développement, la Banque africaine, la Banque asiatique, etc. Nous les avons invités, avec une certaine tonicité, à mobiliser davantage leur capital pour financer la transition. Avec une bonne nouvelle, c'est qu'il y a un nouveau président de la Banque mondiale qui va prendre ses fonctions début juin, M. Banga, qui est un Américain d'origine indienne et qui a l'air extrêmement décidé à engager la Banque mondiale dans la transition climatique. Donc là, je crois qu'il y a une volonté commune d'agir. Et il faut une coalition internationale. Il faut d'ailleurs une coalition qui allie les financements publics et les financements privés, dont les banques.
Il nous reste à peine 2 minutes, François Villeroy de Gallo. Une dernière question sur votre engagement européen. On l'a vu dans le focus qui a été diffusé au début de cette émission. Vous avez écrit sur l'Europe, sur son identité. Qu'est-ce qu'être européen, hein? C'est l'une des questions que vous posiez dans votre livre « L'espérance d'un Européen ». Est-ce que, selon vous, la réponse à cette question a évolué depuis le début de la guerre en Ukraine? Et qu'est-ce que vous pourriez répondre à cette question aujourd'hui?
En 1:01. Oui, d'abord, je crois que les crises ont été très pénibles, la crise Covid et ensuite cette si malheureuse guerre en Ukraine, mais je crois qu'elles ont plutôt renforcé l'unité des Européens. Nous avons répondu ensemble bien à la crise Covid et face à la menace russe, il y a eu unité des Européens. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'être européen? D'abord, je crois qu'il y a une diversité et que l'Europe se définit aussi par sa diversité. C'est une merveille. Il n'y a pas d'autre continent où en une heure, vous passez d'un paysage à un autre, d'une ville à une autre. Mais ce qui unit les Européens, et ça, j'y crois profondément, et je l'ai encore senti dans les réunions internationales cette semaine, c'est un modèle social et environnemental. C'est un modèle où nous croyons aux services publics, nous croyons à la redistribution qui diminue les inégalités, nous croyons à la protection sociale et nous croyons beaucoup à la lutte en faveur de l'environnement. Là, vraiment, l'Europe est en pointe. Et si vous m'autorisez à dire ma conviction d'Européen très profonde, c'est que c'est un modèle non seulement qui réunit, je pense, la grande majorité de nos opinions publiques, quelles que soient nos différences politiques, nos différences nationales, la grande majorité des Européens aiment ce modèle social et environnemental. Mais c'est un modèle qui ne concerne pas seulement les Européens. C'est un modèle qui est attendu par beaucoup de pays émergents, en Amérique latine, en Asie, etc.
Vous le sentez,
c'est un modèle d'équilibre.
On vous le dit, ça ?
On nous le dit, et quelquefois, on regrette que l'Europe soit un tout petit peu trop, comment dire, timide, introvertie. Je crois qu'une fois, j'avais dit, il ne faut pas que l'Europe rase les murs. Bon, alors, nous ne sommes évidemment pas la première puissance militaire, nous sommes alliés des États-Unis, et il le faut dans la guerre en Ukraine. Nous ne sommes pas naïfs par rapport aux tensions géopolitiques. Mais nous, Européens, portons un espoir d'une société qui soit plus juste, d'une croissance qui soit plus verte et d'un monde qui soit plus équilibré. Bah, disons-le avec une certaine fierté, parce qu'au fond, nous avons réussi ça entre nous. Nous sommes le continent qui sommes sortis de la guerre pour construire un modèle de paix et, je crois, de justice sociale, sans que ça soit parfait. Mais gardons cette boussole.
Bien. Eh ben, nous quittons-nous sur cette notion d'espoir. Merci François Villeroy de Gallo, gouverneur de la Banque de France, président de la Banque des règlements internationaux. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, Marc Engrand, du journal Le Monde. Et merci à vous de nous avoir suivis. International est à retrouver sur notre site internet tv5monde.com et sur les réseaux sociaux de TV5Monde. Je vous dis à la semaine prochaine.